Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles. Aujourd'hui, on se retrouve pour une interview. Je suis avec Emma, boxeuse professionnelle. On est à Marseille. Et Emma, comment tu vas déjà pour commencer?
Je vais bien, merci.
T'es en forme?
Oui.
Parce que justement, là, dans quelques temps, dans une dizaine de jours, t'as un combat.
Bah, même pas, je pars dans une semaine tout pile.
Ouais, c'est ouais. Ça. C'est pas ce week-end, c'est le week-end prochain.
Ouais, c'est ça. C'est vendredi 16. Je pars de Marseille le mardi 13. Je reste quelques jours avant et voilà, je suis vraiment très très impatiente.
Et tu pars à l'autre bout du monde?
Oui, c'est ça, parce qu'au final, je ne l'ai pas dit en fait. J'ai dit je pars, mais où? Ouais. Non, je pars au Canada et je vais combattre au Casino de Montréal.
Ouais, en sous-carte de Takam Makhmoudov. Ouais. Ça va être sympa.
Très hâte. Ouais.
Et du coup, c'était l'occasion de te proposer de faire une interview. Quand j'ai vu ça, j'ai vu sur Twitter ton nom circuler. Et ça fait un moment que j'avais envie de te contacter. Je ne sais pas si tu te rappelles, je t'avais envoyé un message à la période de ton combat contre Estelle Mosselli.
Oui.
Tu te rappelles ou pas?
Je ne me rappelle pas exactement. Mais c'est vrai que ce combat, il avait recréé pas mal d'émulsions sur les réseaux, etc. Et puis moi, j'étais assez pas discrète parce qu'au final, peut-être que personne ne le savait, mais moi, on m'a prévenu, on m'a proposé le combat. Le lundi, il devait être 22h30. Mon coach m'appelle. Et donc voilà, j'ai signé le contrat le lendemain. Donc au final, mardi, mercredi, jeudi, on partait et c'était pour le vendredi. Donc j'ai pas eu le temps de faire trop de com là-dessus. Mais ouais, j'ai vu qu'après sur Facebook, machin.
Mais justement, moi, c'est dans ce cadre-là que je t'avais contacté parce que ça s'était fait rapidement. Donc ton nom avait circulé. Et je me disais, mais c'est qui cette boxeuse qui accepte de prendre Estelle à Nantes? Tu vois, les événements de Tony Oka, parce que c'est Tony Oka qui est en tête d'affiche. C'était quand même des gros événements. T'acceptais, t'avais un combat pro en anglaise.
Une défaite.
Ouais, ouais. On va en parler de ça parce que c'est pas contre n'importe qui quand même. Et je me dis, elle y va, tu vois. Donc je t'avais envoyé un petit mot en disant, ouais, félicitations d'accepter le combat. Ou peut-être c'était juste après, je sais plus. Et puis t'avais répondu quelques temps après. Mais justement, déjà, à ce moment-là, c'était pas par rapport au message que je t'ai envoyé, mais c'était pour dire que ton nom, ça m'avait impressionné. Tu vois, je me suis dit,
d'accord.
Elle y est allée, tu vois. Ouais. Et puis surtout le combat que t'as fait. Parce que t'as fait un gros combat. Je sais pas comment toi tu l'as ressenti.
Ce combat-là, à chaque fois, je sais pas comment les discussions prennent, mais quand on me dit voilà, t'as combattu, j'ai vu le combat de Estelle Mosselli, je suis super fière parce que qui aurait accepté? En fait, je me dis pour que on me propose ce combat, en fait, c'est que toutes les filles avant moi qui avaient beaucoup plus de combats, beaucoup plus d'expérience, elles ont dit non, en fait. Et moi, en fait, j'ai regardé qu'est-ce qu'elle peut me faire. Et au final, c'est pour dire que c'était au mois d'octobre, novembre, le 27 novembre exactement. Et je l'ai regardé son combat avant le mien. C'était contre Aurélie Froment. C'était sur Canal+, je crois. Et en fait, je me suis dit, mais franchement, je devrais la prendre. Si je la prends, si on me propose, je dis ouais, je la prends. Et deux mois après, mon coach m'appelle et je dois la prendre. Ah, j'ai dit oui, je dis à mon coach, comment tu me sens? Comment on est? Il me dit, t'es bien. J'ai dit, allez. 5 secondes, hop, il a dit, ok, c'est bon. Au début, il avait mal compris la date. Il m'avait dit, c'est dans 2 semaines. J'ai dit, ok, on raccroche. Il me rappelle, non, mais en fait, c'est ce vendredi.
Donc, je suppose que si tu acceptes un combat comme ça aussi vite, c'est que toi, tu es à l'aise avec le poids. Tu dois être quasiment toujours au poids.
C'est ça. Alors en fait, c'était en catégorie des légers. Donc, c'est moins de 62, 200, je crois, à quelques grammes près. Et je suis une fille maintenant je ne vais pas plus de 60 kilos. D'accord. Et maintenant, mes dernières pesées, si tu regardes, je n'ai pas été pesée plus de 59,700.
D'accord.
Et après, moi je l'ai fait en pied-point. Quand j'ai fait du pied-point, j'étais tout le temps à 62 kilos et je combattais en 55. Donc les cuttings, les machins comme ça, je sais, j'en ai déjà fait, je sais qu'est-ce que ça fait après sur le ring. Et les filles déjà que j'avais pris après du coup, elles avaient, je voyais qu'elles avaient fait un cutting, etc. Donc pour ce combat-là, j'avais pas de souci de poids et j'avais pas de souci d'entraînement parce que je suis une fille, en fait, je dis, je suis une combattante, j'aime combattre.
Toujours prête.
Et toujours prête. Plus ou moins, je vais pas m'entraîner tout le temps en préparation pour un combat. Mais s'il faut y aller, j'y vais, je serre un peu les dents niveau cardio et tout, mais...
Il y a quand même une différence quand tu as le combat qui est programmé à l'avance. Pour ta préparation, tu es quand même plus à l'aise dans ta tête pour t'y faire. Bien mais sûr. C'est vrai que là, comme c'est un nom, et puis comme tu l'as bien dit, tu l'as bien, voilà, tu l'as bien retranscrit, tu t'es dit, allez, j'y vais, quoi. C'est quelqu'un.
Mais t'imagines l'opportunité?
Enfin, télévisé, dire, en plus.
Voilà, c'était télévisé. Il y a des personnes qui m'ont écrit après. Mais c'est toi. J'ai allumé la télé, j'ai vu que c'était toi. Des personnes avec qui j'étais au collège, avec qui j'avais plus parlé. Ils m'ont dit, putain, je t'ai vu à la télé.
Mais c'est fou parce que je voulais t'en parler. Ça, je veux dire, ça a dû faire une différence pour toi. Parce que Estelle, c'était le couple en or, Estelle et Tony. Les affiches, ils essayaient de les mettre ensemble. Ça a dû, même toi, tu as dû un peu suivre leur parcours, et à elle notamment, parce que c'est quand même une figure en France aujourd'hui,
bien sûr,
Estelle.
Oui. Maintenant, je la suis sur les réseaux, je regarde ce qu'elle fait. Elle doit avoir une équipe de managers ou une équipe qui s'occupe de sa com, qui est vraiment très forte. Bon, elle est très forte aussi. J'aime bien sa manière, bon après on peut en revenir après là-dessus, mais j'aime bien sa manière de communiquer, et c'est inspirant.
Oui, et puis elle a pas mal de rôles en dehors du ring, mais liés à la boxe, parce qu'avec la IBA, elle a été présidente d'un événement championnat du monde dernièrement. Là, elle était en Afrique, elle a fait un événement en Afrique, toujours dans le cadre de la boxe.
Ouais.
Donc c'est vrai que c'est important de communiquer
sur ça, génial.
Elle le fait bien.
Ouais.
Et surtout, elle est impliquée en dehors de sa carrière, même si je pense que c'est quand même un peu difficile de consolider deux choses comme ça quand tu as une carrière de très haut niveau, parce que là, on parle du haut niveau pour Estelle. Avant qu'on continue, il y a un truc que j'aimerais qu'on dise, parce que là, on est parti sur les chapeaux de roue en disant « Ouais, c'était ton deuxième combat, mais tu as quand même une expérience. » Parce qu'en 2020, quand tu fais ton combat contre Estelle, c'est quoi ton expérience en sport de combat à toi?
Alors, avant la boxe anglaise, moi, j'arrive du kickboxing.
Ok.
Moi, je vais reprendre vraiment aux prémices de mes tout débuts.
Ouais.
J'ai commencé à l'âge de 19 ans, ça fait 10 ans.
Ouais.
À l'heure actuelle, et j'ai commencé avec le full contact, donc comme amateur, etc. Et en fait, je vais retourner encore en arrière. Avant la boxe, j'ai fait de l'athlétisme à haut niveau. Donc, j'avais déjà une base athlétique et puis conscience sportive qui était déjà bien ancrée en
moi. T'étais déjà une athlète.
Voilà.
T'as commencé jeune l'athlétisme?
Ouais, enfin, je devais avoir 12 ans, 13 ans, un truc comme
d'accord.
Et en fait, j'ai fini après sur l'hélice ministérielle. J'étais spécialisée dans les 400 mètres haies.
Ok.
Et en fait, donc, plusieurs championnats de France. Jamais eu de titre, mais il y avait une rigueur qui était déjà bien inscrite. Et au bout d'un moment, j'ai arrêté pour x, y raison. Et j'ai débuté donc la boxe. Et de suite, je me suis mis au combat. En fait, je crois que 3 mois après, il y avait des combats amateurs.
Et donc, t'avais 19-20 ans.
Ouais, voilà.
Tes premiers combats, tu fais à cet âge-là. Et c'est pas si jeune, finalement. La transition, elle a été assez simple pour toi d'apprendre comme ça.
En fait, moi, j'engrange tout ce que tu me dis, que plus dans le sport que en mathématiques,
t'as des facilités.
Mais on va dire, quand j'aime le sport et donc je regarde et j'apprends déjà pas mal.
Au niveau de la motricité, t'as des facilités pour apprendre, d'accord.
Et donc, il me dit, fais ça, je fais ça. Je trouvais, c'était pas facile, mais je trouvais qu'il y avait une certaine facilité et j'encourageais les informations.
T'as été à l'aise assez vite en fait.
Voilà, ouais. J'arrive à...
Et de passer à la compétition, on n'entendra pas trop, t'inquiète pas. De passer à la compétition, c'était un stress ou c'était quelque chose qui te motivait?
Moi, c'est obligatoire.
T'es une compétitrice?
Donc ouais, je suis une compétitrice dans l'âme. Mes parents m'ont toujours à la compétition des petites, mais jamais forcé, mais ils voyaient que c'était un besoin. Et même après la boxe, je serais obligée de faire quelque chose avec une compétition. Pas forcément pour être championne du monde, mais pour savoir qu'est-ce que je vaux, ce que je vaux. C'est plus moi contre moi que moi contre les autres.
T'as ce besoin de challenge, de compète, d'être confronté.
Parce que je me dis, mais en fait, pourquoi je le fais? J'ai beaucoup de mérite pour les personnes qui s'entraînent toute leur vie pour le plaisir et pour leur bien-être. Moi aussi, c'est un plaisir, etc. Mais il me faut même une compétition.
Il manque quelque chose. Tu disais que t'étais dans l'athlétisme. Est-ce que c'est quelque chose que... Pourquoi t'as lâché et t'es passé à la boxe?
Alors... vraiment, bonjour, je te raconte. Putain.
Si tu veux.
Non, mais j'aime bien. Parce que ça me fait. J'oublie pas d'où je viens. Enfin, d'où je viens, tu vois. Moi, je suis une campagnarde iséroise.
Ok.
Et je viens de la campagne. Et à côté de chez moi, il y a des champs avec des vaches, etc. Tu vois, donc.
Okay.
La petite maison dans la prairie. Et en fait, donc, j'ai fait de l'athlétisme sur une piste. Il y avait des trous, c'était horrible. Il n'y avait pas de gymnase d'intérieur. Il pleuvait, on courait quand même dehors, enfin voilà. Mais ça m'a forgé, enfin j'adore moi les trucs un peu durs, tu vois. Et après, en fait, quand j'ai passé mon bac, il y a un club de Saint-Étienne qui m'a acheté.
copine ?
À mon club, à mon petit club de petite ville. Okay. Et donc je suis allée à Saint-Etienne. J'ai encore tout fait ma vie autour du sport. Donc je suis allée là-bas à Saint-Etienne. Seulement, bah, moi je m'en foutais des études. J'ai juste pris un truc post-bac qui était à Saint-Etienne. Donc c'était dans la biologie. Et à la fac, moi non, il ne faut pas mettre à la fac, sinon bah, je ne fais rien. Je faisais que m'entraîner. Je faisais que m'entraîner. Il y avait les cours, bah, j'y allais, mais je me disais, mais c'est pas possible, je ne peux pas réviser ça. Il y a 14 pages en une heure, deux heures, enfin, pas possible. Je dois aller m'entraîner, les gars. Bref, et donc après, tout ça, c'était un peu trop pour moi, la fac, ça ne me collait pas. J'avais un copain de l'époque qui n'était pas sur Saint-Etienne. Et puis j'arrivais pas, c'était, je sais pas, je voyais pas la progression. D'accord. Peut-être que j'étais arrivée au seuil de mon niveau, peut-être en 400 mètres, ouais, je sais pas. Donc je décidais de partir de Saint-Etienne et de vivre en Ardèche.
D'accord.
J'ai vécu 3 ans en Ardèche et là j'ai encore dans un petit village, un petit club de village ardéchois. Et là j'ai découvert le full contact.
Ok.
Et donc au début, j'y allais 2 fois par semaine parce qu'il y avait 2 cours. Et après, j'ai dit, il faut que un autre truc. Donc j'y allais 2 fois par semaine, plus moi j'allais courir de mon côté. J'avais l'habitude déjà avec l'athlétisme m'entraîner tous les jours. Là, il manquait un truc. Et quand j'ai fait les combats, mon coach, il voyait que je l'écoutais au doigt et à l'œil. Dès qu'il me disait quelque chose, à la seconde, je le faisais et ça rentrait, ça marchait.
Okay.
Et donc la première année, bim, je deviens championne de France. Et les années, en fait, toutes mes années... amateur et pro, au final, victoire sur victoire et titre de championne de France. Et j'arrête en Ardèche, je finis mes études sur Lyon et après je pars sur Marseille. Et sur Marseille, je suis dans un club qui a, je peux le dire ?
Oui, bien sûr.
Dans un club, le Mondial Boxing,
d'accord.
Tenu par Hervé Buzonera, qui était ancien champion du monde en full contact. Et donc de là, je fais un titre championne de France pro. On contacte aussi pour un titre de championne d'Europe que je remporte et un titre aussi de l'année d'après. Donc ça, c'est 2017, 2018, 2019. Dernier combat, je crois, avant-dernier combat pour un titre de championne du monde.
D'accord.
En pied-point en Italie. Okay. Et voilà, et tout ça, petit à petit, je construis ma vie autour de ça, les coachings, j'arrête mon travail, etc. Et
tu te consacres vraiment.
C'est ça, ouais.
Au sport de combat notamment.
C'est ça.
Les coachings, tu fais aussi dans les sports de combat ou ça va être plus remise en forme?
Aussi dans les sports de combat, même.
D'accord.
Plus, tu vois, vu que c'est ma spécialité.
Tu leur spécialité, fais forcément voilà. Faire ce que toi,
les
tu
les gens viennent, ils vont pas venir vers moi pour, perdre de poids, même si c'est possible, tu vois.
Oui.
Mais il y a des gens qui sont spécialisés pour des pertes de poids, par exemple, pour la préparation des marathons, par exemple.
D'accord.
Moi, je suis spécialisé.
Ça tombe bien, je prépare un marathon en ce moment. C'est vrai, c'est pas une blague. Hein.
Ouais,
c'est pas une blague.
New York.
Non, pas New York, je vais faire Nice Cannes.
Ah, bien.
Nice Cannes, donc là c'est dans 8
semaines. Ah, mais oui, c'est bientôt.
Ouais.
Ouais.
Je suis pas prêt du tout, mais. Mais bon, comme toi, je me mets des challenges, tu vois. Donc voilà. Ok, non, c'est.
Donc voilà, là c'est le passé, voilà. Ouais. Pied-point.
Ouais.
Et en fait, pendant le pied-point, je m'entraînais toujours, enfin, la dernière année surtout, j'allais au moins un entraînement, voire 2 entraînements en boxe anglaise.
Mmh.
Pour un peu prendre pas d'expérience mais une meilleure anglaise dans les
tu
sports.
Tu faisais que de l'anglaise?
Non, je faisais du pied-point. Dans ma dernière année de pied-point, je faisais des entraînements de boxe anglaise.
Ouais,
pour améliorer ma boxe anglaise dans le pied-point.
T'avais des moments où tu te consacrais qu'à la boxe.
Exactement,
pendant ton entraînement,
ouais.
T'avais des moments spécifiques boxe anglaise, d'accord.
Et j'ai fait des combats d'ailleurs en amateur en boxe anglaise.
Ok.
Pendant mes 2 dernières années, ouais.
D'accord.
De pied-point.
D'accord. Et alors, l'envie de faire un peu de boxe anglaise, elle t'est venue comment, du coup?
Mais
parce que toi, tu gravis les échelons, là, comme tu l'as dit,
oui,
dans le pied-point,
oui.
T'es même arrivé au championnat du monde, et t'as eu envie quand même de faire un peu de boxe anglaise.
Je vais répondre de 2 manières. Il y a une manière où moi, je suis une fille déjà qui se repose jamais sur ses acquis. Je me dis toujours que je peux faire mieux. Et,
d'accord.
Et heureusement, parce que si je me dis toujours, ah, mais là, je suis arrivée au max, putain... même si c'est déjà bien, mais je dis, non, j'en ai encore sous le pied, quoi, tu vois. Et du coup, au début, la boxe anglaise, j'étais pas du tout pour. Mon coach, quand il m'a dit ça, j'ai fait, ah ouais. Okay. En fait, j'ai dit, oh merde.
Et qu'est-ce qui fait que t'étais réticente?
Parce que moi, quand je vois que quelqu'un est compétent, quand je vois que ses compétences avec moi, ça fonctionne, j'ai fait confiance.
D'accord.
Mais... si plus plus égale plus, bah...
Non mais qu'est-ce qui dans la boxe anglaise te, te freinait? Qu'est-ce qui... Parce que t'as
c'était les pieds, il n'y avait pas les pieds.
Il n'y avait pas les pieds, donc il y avait un manque pour toi. C'est pas complet.
Est-ce que je vais réussir même? Est-ce que je vais pas avoir des réflexes, tu sais, ouais. La jambe. Mais non, il y a les chaussures, donc j'ai les pieds bien au sol. Et du coup, bah non, j'ai fait dans un club Open Mirabeau au début, chez Samuel Florimont.
D'accord.
Et j'ai fait quelques combats, bon, après des défaites, des victoires, mais vraiment, ça m'a appris énormément. Et je voyais la différence un peu sur mes combats.
D'accord.
En pied-point.
D'accord, d'accord.
J'avais une meilleure anglaise, les filles, c'est vrai que... Après, je te parle... oui, ça dépend les filles, hein, pas de plus, je ne généralise pas, mais on est plus axé sur une transition point-pied, donc on se protège peut-être moins le visage, ou je sais pas, et ça payait, quoi, ça rentrait.
Moi, j'entends beaucoup dire des combattants en pied-point que quand tu as une bonne anglaise, tu as quand même un bel avantage.
Enfin, pas que tu peux tout faire, mais j'allais dire, bah voilà, tu peux... Qu'est-ce qui peut t'arriver? C'est sûr que le mec, il a un gros low kick, mais, mais déjà, un mec qui se prend des pains dans la gueule assez fort et assez correct, il ne va pas penser à mettre une jambe. Hein. Il va essayer de se barrer plus possible.
C'est sûr. Et juste, je reviens un peu, tout à l'heure, tu parlais de tes parents. Est-ce qu'eux, ils ont aussi cet esprit sportif? Parce qu'il faut te suivre. J'ai l'impression que toi, tu es toujours en train de partir à droite à gauche sur plein de projets dans le cadre du sport.
Hein. Oui, oui.
Mais alors, tes parents, ta famille, tes proches, ils sont aussi dans le sport, c'est un peu un truc familial ou c'est toi toute seule?
Bah non, non, c'est quelque chose de familial avec mes parents. Ils nous ont baignés avec mon frère, j'ai un petit frère, dans le sport de tout jeune. Eux, c'est des sportifs, ils ont, quand j'étais plus jeune, ils avaient une salle de musculation. Mon père est plus dans la musculation, le bodybuilding, etc. Et donc en fait, j'étais peignée là-dedans, quoi, c'est dans mon sang.
D'accord, d'accord.
Et ouais, je me rappelle, petite, on allait faire du vélo, enfin. Et pour moi, c'était naturel, tu vois, mon frère aussi, etc. Et mes parents maintenant me suivent, enfin maintenant, depuis un petit moment déjà, me suivent à tous mes combats.
Ils avaient une culture des sports pieds-poings
La boxe, non. Ils n'avaient jamais, enfin, dans la famille, il n'y a jamais personne qui a fait de la boxe.
Et ça, on sait que souvent pour les proches, c'est pas simple des fois de voir prendre des coups, là, voilà, que ce soit son fils, sa fille, peu importe. Mais
c'est vrai, de plus en plus, ouais, je me pose la question comment eux,
ils le vivent.
Ils le ressentent, parce que des fois, tu es la tête dans le guidon, tu t'en fous de comment eux, ce qu'ils ressentent, et après, tu dis, ah merde, peut-être que ça peut faire bizarre, en fait.
Et, donc, ils t'ont jamais fait ressentir, parce que tu t'es posé la question toute seule?
Non, jamais.
D'accord.
Mais en fait, mes parents, ils voient que je suis à fond dans un truc et que je réussis. Vas-y, vas-y, roule ma poule. Et en fait, au début, mes deux parents étaient dans les tribunes.
D'accord.
Et en fait, mon père, je suis comme lui, j'ai envie de... Enfin, il avait envie de s'impliquer, ouais, plus. Et mon père, il m'a toujours suivi dans le sport, que ce soit en athlétisme. Et j'allais qu'avec mon père, enfin, qu'avec mes parents en compétition, tu vois, parfois. Et il a toujours été là, il courait à côté de la piste, tu vois, il m'encourageait. Et voilà, donc... c'était pas un besoin vraiment nécessaire de ma part, mais le fait qu'il soit là maintenant, je pourrais plus m'en passer.
D'accord. Alors, il s'est impliqué du coup? Tu l'as impliqué dans ton...
Il s'est impliqué, en fait, au début, il venait dans le coin.
Ok, c'est
dans
le coin.
Ouais, en pied-point.
D'accord.
Et après, en fait, au niveau après de la Fédé, ils ont c'était un peu plus strict, il fallait que les personnes dans le coin aient un diplôme.
Ah, d'accord.
Et donc, mon père, il a dit, ok, bah, je passe un diplôme. Il a passé un diplôme de cutman. À Paris, et du coup, bah, voilà, il m'a suivi. Après, il s'est intéressé au fur et à mesure. Bah, voilà, imagine, t'as une blessure, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, ce qui lui a fait le tilt, c'est, je crois que c'est mon dernier combat en France, à la Nuit des Champions, à Marseille, au Palais des Sports. C'était pour ma défense de ceinture. J'avais déjà gagné la ceinture de l'événement, et là, c'était pour la défendre. Et donc, troisième round, je crois, on se met un coup de tête, choc de tête avec la fille. Et toutes les deux, on a les arcades ouvertes.
Okay.
Et il y avait un seul cutman et il n'avait rien fait, en fait. Et mon père, il me dit qu'en fait, je l'ai vu, mais en fait, il n'a pas mis de vaseline, il n'avait rien, tu vois, pour cautériser. Enfin, et là, en fait, il s'est dit, c'est plus possible. Imagine, tu fais vraiment un gros combat, qu'est-ce qui se passe? On va t'arrêter, tu vas perdre parce que tu as une blessure.
Tu as déjà eu des grosses blessures comme ça?
J'ai eu les... L'arcade gauche ouverte deux fois, bah, cette fois-ci avec la fille coup de tête. Là, on m'a recousu dans le vestiaire avec un poids de suture.
Je pensais plutôt à dans le combat. Comment tu le vis, ça? C'est quelque chose qui te perturbe? Parce que j'ai revu un petit peu des images
contre Mosley. Ouais.
Tu fais un petit signe.
Parce qu'en fait, au début, je vois pas que je saigne. Enfin, je le sens
d'accord.
pas.
D'accord.
Et donc, en fait, je vois que j'ai un coup et. Bah, énervée, pas forcément contre elle, mais je sais que j'ai pris son coude.
D'accord.
Et donc, je me dis, qu'est-ce qu'elle a fait? Mais en fait, sur la vidéo, c'est moi qui reviens dans sa garde. D'accord. Donc, et elle me dit, vas-y, combat. Et dans ma tête, je me dis, mais ouais, je vais combattre, tu crois quoi? C'est ça qui va m'arrêter. Mais sauf que tu vois, je sais pas, X ou Y raison, mais normalement, ils auraient dû stopper. Et que j'aille dans mon coin où le médecin qui m'enlève le sang. Parce que là, c'est à plus de 30 secondes de la fin. Et là, vraiment, ils ont fait exprès. Ils ont fait exprès. Mon sang chaud, il coulait dans mon œil. Et normalement, tu arrêtes, tu laisses pas couler. Surtout en boxe anglaise, il faut que ça soit propre. Que...
Ouais, bien sûr.
Et normalement, ils t'auraient arrêté, tu nettoies. Mais c'est pas... je crois que c'était au deuxième ou troisième round.
Ouais, c'était au tout début du combat.
Ouais. Mais après, ça m'a pas gêné. Mais sur le coup, en fait, tu sens un... C'est hyper chaud, comme ça te brûle. Mmh. Mais par exemple, je vais me taper le genou contre la table, ça va me faire super mal. Et je m'ouvre l'arcade, la douleur est moindre, tu vois.
Ouais, mais ce qui est gênant, c'est comme tu l'as dit, c'est le sang qui coule, c'est ça qui va te perturber après dans ton combat.
En pied-point, la première fois là au-dessus, c'était beaucoup plus ouvert.
Ouais.
Ça, on a arrêté le combat, enfin, on a mis pause au combat, on a un peu nettoyé. Après vaseline, etc. Ça va arrêter de couler. Mais là, en fait, ils ont laissé. Et en fait, j'avais du sang de partout.
Mmh.
Et je faisais comme ça avec le gant. C'est déstabilisant parce que.
Ah oui, bien sûr.
Je me préoccupais plus de voir quelque chose que.
Je sais pas si t'avais vu, justement, tu vas être en sous-carte de Takam Joshua.
Ouais. Ouais.
Qui saigne abondamment, je sais pas si t'as vu ce combat.
Non.
C'est impressionnant, ça coule à flot.
Sans les arcades, ouais.
Finissent par l'arrêter.
C'est chaud.
C'est un des plus impressionnants. Non, il y avait aussi, je dis ça comme ça, mais il y avait Badou Jack aussi, c'était hyper impressionnant, il s'était ouvert au milieu du front. Une grande
C'est un point.
Alors je sais plus comment il se fait la blessure, et c'est cette photo de l'arbitre qui a la chemise blanche toute rouge. Je sais pas si tu l'as déjà vu circuler sur internet. Elle est hyper connue, elle circule beaucoup, tu vois, de temps en temps on la revoit.
Ouais.
Et c'était un combat de Badou Jack où il est ouvert tout le front. Non, c'est vrai que c'est quelque chose qui gêne beaucoup les combattants. Je pense qu'il gêne même plus qu'une douleur quelque part.
Ouais.
Parce que ça peut te.
En fait, c'est le sang, mais ça peut obstruer la vision après.
C'est ça.
En pied-point, j'ai eu des douleurs plus musculaires, articulaires. Mais.
D'accord.
Et là, ouais, c'est un petit peu gênant, mais après, on serre les dents.
Ouais. Ton père était dans ton coin pour le combat d'Estelle, justement?
Non, parce que en fait, vu que là, ils nous ont prévenus au dernier moment, mes parents sont vers Lyon.
D'accord, pour venir, c'était
donc,
compliqué, ils n'ont pas pu...
Ouais,
d'accord.
Ils étaient à fond derrière leur télé,
j'imagine.
Je pense bien, mais...
J'imagine, ouais. C'était la première fois que tu étais télévisée en direct comme ça?
En direct, oui.
Ouais.
Parce qu'en pied-point, il y avait des rediffusions. Bon, on connaissait déjà le résultat, c'est pas pareil.
Ouais, bien sûr.
Là, on suit.
Là, c'était quelque chose. T'étais à l'événement, t'étais en direct. Ouais, non, c'était quelque chose.
Et puis, c'était bizarre parce que c'était 2020, pas de public.
Ouais, ouais, c'est vrai.
C'est la première fois que je me dis, mais comment je vais réagir? Enfin, comment je vais réagir?
Ça t'a perturbé un peu?
Je me suis posé la question.
Ouais.
Après, focus, tu vois, mais. Mais tu sais, quand t'arrives sur l'estrade, tu regardes.
Ouais, il manque quelque chose. Il manque quelque chose.
Qui crie là.
Ouais, tu te dis, je suis revenu en amateur ou quoi?
Non, l'ambiance était un peu vide.
Ouais, c'est vrai. Mais on se posait la question, nous, justement, parce qu'on regardait beaucoup de galas, et même c'est les Américains qui ont relancé un peu la boxe. C'est vrai que ça faisait bizarre, il y avait personne, pas de bruit.
Ouais.
Et la boxe est quand même un sport de spectacle.
Oui,
donc ça interagit avec. On parlait, avant de lancer le podcast tous les deux, on parlait du UFC Paris, avec cette ambiance assez folle. D'ailleurs, je vais te poser des questions un peu sur le MMA, parce que j'aimerais bien avoir ton avis, toi qui as un parcours où tu as tenté plein de choses, et que tu me dis que tu as plein de challenges. Ça se trouve, elle se pose la question. Mais on va rester sur ton passage à l'anglaise, parce que tu te doutes bien que c'est un peu ça qui m'intéresse le plus. Parce que ton premier combat, c'est pas contre n'importe qui. J'ai mangé son nom, je suis désolé, c'est la boxeuse des Mureaux. Rima Ayadi. Voilà, boxeuse des Mureaux. Donc, c'est une sacrée équipe là-bas. Et voilà,
ils sortent des champions,
pas. Ils sortent des très très bons boxeurs et surtout, ils s'en occupent très bien. Mm. Donc, tu t'es retrouvé déjà face à un petit nom de la boxe anglaise. Déjà, c'était ton premier combat. Et ton deuxième, c'est Stella.
J'avais ta raison aussi.
Donc, en fait, tes deux premiers, tes deux seules défaites en anglaise, c'était deux seules défaites. Et finalement, tu vois, quand on voit l'affiche. les gens, c'est ça, il faut toujours creuser derrière une fiche. Ouais. Parce que ça ne veut pas forcément tout dire. Et tu la connaissais déjà
En fait, comme je t'avais dit au début, j'avais déjà fait des combats amateurs.
D'accord.
En anglaise. Et je l'avais rencontrée.
D'accord.
Je ne sais pas, c'était un tournoi à Nantes. Non, pas à Nantes, je crois. Peut-être ouais. Nancy ou un truc comme ça.
Bref, d'accord.
Un peu dans le nord de la France. Et un tournoi féminin. Et il y avait un souci de catégorie. Et, bon, bref, on n'était pas dans la même catégorie, mais finalement, on s'est pris, ça s'est joué à quelques kilos près, tu vois. Et gauchère, pas habituée. Et ça m'avait surpris parce que je m'étais pris son bras arrière plusieurs fois. Et ça m'avait touché, quoi. J'avais un peu l'œil gonflé et tout. Et quand on me propose celle-ci, Rima, et je me dis, vas-y, c'est pourquoi pas, parce que je sens que moi j'ai progressé, je suis pas la même fille qu'avant. Elle est toujours gauchère. J'ai regardé ses vidéos, elle a évolué, bien évidemment, mais il y a toujours ce bras arrière qui, que si tu le prends pas, qu'est-ce que tu prends? Et donc, au final, je suis ressortie de ce combat contre elle avec aucune égratignure. Et déjà, ça, c'était une victoire. J'aimerais bien, franchement, revoir la vidéo parce que je la trouve pas, ouais. Du combat. C'était pour les finales hommes des championnats de France.
D'accord.
Il y avait deux combats ou trois combats pro avant.
D'accord.
Et ouais, j'aimerais vraiment récupérer parce que je pense que le combat est assez serré. Ça se passe à Paris. Voilà.
Oui,
là, on va. Mais je suis.
C'est comment ça marche le monde de la boxe hein, quand t'arrives, t'es à domicile.
C'est ça.
On sait que dans la boxe, ça influence beaucoup.
Ah mais bien sûr.
Ne serait-ce que les juges, hein. Voilà, sans c'est parler clair. De corruption.
Non mais après, on est c'est l'humain. On n'est pas des machines. On a de l'affection pour telle ou telle personne.
Bien sûr. Puis t'as l'ambiance, t'as le public qui peut t'influencer aussi. Tout à fait. Non mais c'est surtout pour dire que t'as fait deux combats, serrés en plus. Derrière, troisième combat, tu fais championnat de France ?
Oui, c'est ça, ouais.
Tu gagnes les championnats de France ?
Après, moi aussi, ouais.
C'est vrai que c'est assez...
Il est un peu atypique, c'est vrai, parce qu'on voit toujours... Et de plus en plus, je trouve des filles qui se protègent dès leur premier combat, dès leur deuxième. Elles ne veulent pas de défaite. Oh, mais enfin, en fait, pour moi, c'est bien de construire une carrière. Mais d'en construire, il n'y a pas... prendre des chèvres. Enfin, je veux dire, excuse-moi pour l'expression, mais au bout d'un moment, voilà, tu vois, ça se dit, ouais, tu sais, il faut être guerrière, etc. Mais un guerrier, il refuse pas un adversaire. Si c'est lui que tu dois prendre, et tu prends lui. Après, bien sûr, on va pas prendre une fille qui fait ses débuts contre une fille qui est déjà championne d'Europe, par exemple, ça serait pas possible. Mais voilà, un minimum, quoi. Et c'est pour ça, je me dis, qu'est-ce qui va m'arriver? Alors, deux victoires, moi je sais les combats que j'ai fait, deux défaites, je sais les combats que j'ai fait, je vais rebondir.
Et puis même finalement, une de ces défaites, t'as fait un petit nom.
Ça m'a permis au final, on savait avec mon coach et ma team que pour le combat d'Estelle, contre Estelle, même si dans l'éventualité je gagnais, même haut la main, il ne me donnerait pas parce que. Enfin, je veux dire, c'est pas là, c'est pas contre elle vraiment du tout. C'est que c'est comment son coin et comment même les gens peuvent justifier qu'une championne d'Europe et même du monde à l'époque elle déjà ou championne olympique déjà, elle pouvait perdre contre une fille qui a un combat et une défaite. C'est pas possible.
Bien sûr.
Même si c'était serré, peut-être que je gagne pas. Je sais pas. J'ai pas vu si j'ai vu le marquage, mais je pense que j'ai plus de points que ça. Il fallait mettre 3-4 points de moins.
Ton combat contre Estelle c'était très serré, tu fais un gros combat, mais très objectivement, je la mettais quand même devant, au final. Mais moi, ce qui m'avait épaté, c'était, vu ton expérience, le combat que tu sors, parce qu'on savait que tout était contre toi. C'est-à-dire qu'Estelle, c'est la star, elle a une technique, elle a été très haut niveau amateur, et puis là, elle est partie pour aller jusqu'au championnat du monde et chez les pros. Donc, moi, j'avais été impressionné par ça, en fait, ce que tu avais proposé vraiment en guerrière, tu étais allé. C'était vraiment très impressionnant.
Non, ouais, j'avais qu'il fallait être technique. Et puis, on avait mis en place une stratégie un petit peu sur les deux jours qui nous restaient. Mais non, les dégâts ont pas physiques, en tout cas, ils ont pas. Il n'y a pas eu de dégâts physiques. Et c'était ça qui, il fallait que je montre, même si j'y vais. J'ai pas la victoire, mais regardez maintenant la boxeuse que je suis, que je peux faire quand même un gros combat contre une grande boxeuse. Et c'était ça mon objectif principal. C'était montrer ce que je vaux.
Du coup, par la suite, t'as enchaîné les victoires. Là, ouais. Depuis, là, t'es sur une série de victoires. Ton dernier combat, c'était à domicile.
Oui.
C'était à Marseille. Et là, tu repars à l'extérieur.
Oui,
tu repars cette fois-ci à Montréal.
Oui.
Donc, tu vas faire une soirée à Montréal. Et là, tu vas être que face à des... Enfin, tu vas être toi face à une boxeuse qui, à mon avis, est chez Ace of the Tiger. Je pense
oui.
qu'elle est,
oui, elle est promue elle par, managée, ouais.
voilà, enfin, par le promoteur ouais. de la soirée.
Ouais.
Donc, bah, comme Carlos Takam qui va affronter le petit
voilà,
protégé.
Voilà, sur la carte, c'est tous les Canadiens contre voilà. le reste du monde.
Exactement. Donc, tu sais que là, tu es vraiment en terrain ennemi. Là. Vraiment, tu vois, pour le coup. Ce combat-là, tu l'as su... ça fait un moment que tu es au courant parce que, justement... J'ai demandé aux membres de ma chaîne de poser des questions. Il n'y en a pas beaucoup de membres sur ma chaîne. Hein. Mais il y en a un qui a demandé parce qu'il est de là-bas. Justement, il est de Montréal.
Incroyable.
Et quand il a vu que tu combattais là-bas, il a dit j'ai l'impression qu'elle devait affronter une Polonaise il n'y a pas longtemps. Donc est-ce que c'est
ça,
un changement la combattante que tu affrontes,
okay.
il avait cru voir qu'elle devait affronter une Polonaise. Donc est-ce que tu as été prévenu encore une fois dans la lutte ou non?
Il me semble que le dernier combat. Ou l'avant-dernier combat de mon adversaire,
ouais.
C'était une Polonaise, une fille
D'accord.
de l'Est. Donc voilà ça.
Okay.
Elle a perdu contre cette fille et il me semble qu'elle a fait un autre combat, mais sur BoxRec, je vois, y a pas de ils n'ont pas marqué les résultats, donc je ne sais pas
D'accord.
si c'est fait ou pas. Et donc en fait, j'ai pour la petite histoire avec cet organisateur et surtout avec le manager, ça fait depuis un moment qu'il me contacte.
D'accord.
Il s'appelle Stéphane Loyer. Et en fait, il m'a contacté au début. C'était vers la date de mon championnat de France. Et en fait, pour que je combatte une fille en 59 kilos qui s'appelle Leila Baudouin.
D'accord.
Et en fait, c'est pareil, une tête montante canadienne managée par Ivo The Tucker. Et en fait, ils voulaient me la proposer, mais ça collait pas à chaque fois avec les dates.
D'accord.
Parce que j'ai combattu au mois d'octobre, après décembre. Février, ça collait pas. Enfin bref. Et donc, ils m'avaient proposé au mois de juin. J'avais refusé parce que je combattais à Marseille le 2 juillet.
Okay.
Et pendant l'été, je lui dis écoute, j'ai envie de combattre là, début de saison. Si t'as quelque chose, je suis là. J'ai vu qu'il y avait il y a deux événements là, le 9, ce week-end, là, le 9 et le 16.
Il y a une Billy là qui ouais. boxe là, vendredi,
c'est
dans
ça.
La soirée de vendredi à samedi.
Et je dis bah vas-y, Leila Baudouin en 59, elle combat le 9, mais moi contre elle. Et il me dit, je sais pas, j'ai pas de nouvelles de leur team, etc. Et c'était pas trop chaud. Et quelques jours après, moi j'étais là, j'ai dégoûté quand même. J'ai dit, putain, je vais pas combattre. Et quelques jours après, il me réécrit. Et il me dit, Emma, j'ai une opportunité pour toi. Je demande d'abord à toi et après, je fais ma pub, ma prospection, quoi. En 126 livres, donc en 57. Telle personne, est-ce que ça te va? Et je vais, okay. Oh oui!
Ah, 57, oui. Donc il faut que tu descendes un peu plus.
Donc en fait, voilà, on parlait du poids de, tout à l'heure. C'est qu'en fait, j'ai combattu, donc j'ai fait tout mon début de carrière chez les légers en moins de 62. Et en fait, je vois très bien que j'arrive pas à grossir. Enfin, c'est bizarre de dire ça, mais.
Oui, mais.
Sans muscle. En fait, dès que le rythme, j'ai un rythme de journée qui est hyper élevé, plus d'entraînement, mon corps il stocke rien du tout. Et donc j'arrivais de temps à 59. Donc 59 dans les super plumes, c'était OK. Et je me dis 2 kilos en moins pour les plumes, j'y vais. Donc j'y vais, je l'ai su le 27 juillet à peu près. Et depuis, bah, j'ai cravaché jusqu'à la semaine prochaine.
D'accord. Et là, c'est la première fois que tu vas combattre aussi loin. D'accord. Alors, comment tu vas gérer le voyage, la récupération du voyage? Tu sais un peu, tu as prévu quelque chose un peu avec ton équipe ou,
Bah là, vendredi, je vois mon préparateur physique et c'est plus lui qui gère. Il gère aussi ma diète.
D'accord.
Donc là, j'ai un plan qui est strict sur ce que je dois manger et c'est grammé, etc. Et oui, je pense qu'il va me faire un peu des trucs. C'est vrai que. J'apprends ouais, un petit peu le changement des horaires, le décalage horaire, le machin comme ça. Je sais pas comment je vais réagir. Mais bon, ouais, je sais que là-bas, il y a une salle de sport, il y a un sauna, il y a tout ce qu'il faut pour cuisiner dans la chambre.
D'accord.
Ça, tu vois, c'est les choses aussi, c'est les premières choses que j'ai demandé. Il me faut une salle de sport, un sauna ou une baignoire et de quoi cuisiner, enfin, quoi comme ça.
D'accord.
Et donc il y a tout ça dans l'hôtel.
Quand est-ce que tu pars exactement?
Je pars le 13 à 15h30.
D'accord. Tu seras, t'arriveras combien de temps avant le combat ?
3 jours.
3 jours avant, ouais.
Ok. Il y en a qui me disent que c'est pas assez, etc. C'est jamais assez, c'est vrai que on aimerait arriver beaucoup plus tôt, mais...
C'est vrai, ça dépend des personnes. Moi, je connais des personnes qui vivent très bien le décalage horaire, ouais. Ça leur fait rien du tout.
D'accord.
D'autres qui le vivent mal, ça dépend, tu vois, ça, on peut pas... On ne peut pas savoir. Hein. Et donc, ok. Donc, ça va être quelque chose. T'es comment? T'es excité par rapport à cet événement?
Ouais, franchement, j'attends parce que tu sais, ça fait. Comme tu dis, ça fait depuis un moment qu'il m'écrit. À chaque fois, on ne peut pas. Soit c'est lui, soit c'est moi, tu vois, ça ne convenait pas. Et là, je me dis, je peux. Et enfin, tu vois. Et je voulais vraiment, c'était mon souhait de partir à l'étranger.
D'accord.
De partir à l'étranger, pas en Europe, mais de partir.
Ouais.
Vrai étranger quoi, genre le continent nord-américain en plus. Et parce que je pense que c'est pas pour dire le rêve américain, je vais au Canada, mais ils ont la boxe canadienne, je trouve, est en train de monter, on en voit de plus en plus. Et il y a des filles. Et surtout cet événement, en fait, il a été. Il va être diffusé sur ESPN+. Et en fait, ils ont signé un contrat de 3 ans avec ce média. Et donc, tu vois, je veux dire, là, il y a tout qui s'imbrique bien. Il faut que je combatte.
Je vais rappeler, ESPN, c'est l'un des plus gros médias qui présente des sports de combat et de la boxe notamment.
Ouais.
Et ESPN+, c'est un peu leur... C'est leur bonus, leur application pour diffuser les combats.
Ouais.
Et donc Tony Oka, justement, a fait ses 2 derniers combats sur ESPN+.
D'accord.
Et donc là, Mbili, comme tu l'as dit, ils ont signé un accord. Donc Mbili sera aussi sur ESPN+ ce week-end. Donc ouais, c'est une belle opportunité pour toi. Je vais revenir sur ce que tu as dit, parce que tu as un peu forcé le truc avec le promoteur.
Ouais.
Comment toi, tu gères ta carrière? Est-ce que tu as un promoteur qui s'occupe de toi? C'est un peu toute seule? Comment ça se passe?
En fait, au début, avant là, avant cet été, au final, personne. C'était. On m'appelle, j'y vais, je me prépare. J'étais plus attentiste. Mais sauf que ça, c'est pas dans mon caractère d'attendre les choses qui viennent à moi. Et quand j'ai. Je vais parler en toute honnêteté. Hein. Quand j'ai combattu au mois d'avril au Palais des Sports, donc pour la ceinture WBC francophone, donc Palais des Sports, etc. Il y avait en plus. J'étais l'avant-dernier combat parce que le combat vedette, c'était. Les deux
oui, c'est vrai.
Mecs de la télé-réalité.
C'était les deux influenceurs.
Et voilà, c'est ça. Et donc en fait, c'est pas un peu trop fort, machin, ou ça va?
Écoute, ouais. On continue, on verra bien. Hein.
Okay. Et donc après ce combat, il y avait beaucoup de bruit autour de ce combat. Et en fait, avec les mecs de mon club, en fait, on s'est dit, mais en fait, on est qui, non? Enfin, en fait, on est. Le petit feu, tu vois, avant leur combat, mais c'est pas possible. Moi, je fais un 10 rounds de 2 minutes pour les ceintures. Ouais. WBC, une ceinture verte quand même, même si c'est francophone, mais ça reste quand même WBC. Et en fait, après coup, parce que après, quand j'étais dedans, le combat, la préparation, je voulais pas y penser parce que ça allait me mettre trop. Je voulais pas avoir cet énervement en plus. Mais là, en fait, c'est pas contre eux, c'est contre personne, mais c'est. C'est pour l'ensemble. Comment on est arrivé là, quoi? Je veux dire, tu fais un 10 rounds de 2, t'as quoi? T'as même pas un article dans la Provence ou de la Marseillaise pour pas faire de jaloux? Tu vois, t'es là. Ok. Après, tu fais un autre combat au mois de juillet qui a clôturé ma saison. Et en fait, je suis restée un peu sur ma faim, quoi. Enfin, sur ma faim. Pas au niveau des combats, mais au niveau de. Pas de la reconnaissance, mais de l'évolution en fait de ma carrière et de la pseudo-notoriété qu'on peut acquérir combat après combat, normalement, qui se finit normalement naturellement. Et après, je me suis dit, non, mais en fait, c'est pas possible. Il faut que je fasse quelque chose parce que si j'attends que les autres fassent pour moi, enfin, comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et je prends le risque de gérer moi, je me rajoute un peu de travail parce que bon, les mails, les papiers, les machins. Au début, c'était un petit peu stressant, mais je l'ai contacté, je vais sur Boxrec et j'appelle à tous les boxeurs de faire la même chose. Si t'as un promoteur, tant mieux, et que tu lui fais confiance, etc., vas-y. Mais si t'en as pas, tu vas sur Boxrec, tu cherches dans ta catégorie, il y a tel événement, ce mois-ci, au mois de décembre, ça te laisse du temps. Il y a le matchmaker ou le promoteur, tu écris un mail, tu trouves sur Twitter. Moi, j'ai créé un compte exprès Twitter, LinkedIn, j'ai ajouté de partout. Et pour, il faut y aller parce que sinon, c'est pas possible, quoi.
Alors,
donc là, maintenant, il n'y a personne qui gère, mais c'est plus moi. Et comme je disais, mon père est impliqué vachement dans ma carrière et il m'aide aussi à faire mes recherches. Ouais.
Alors, tu vois, c'est super intéressant ce que tu racontes et je comprends ta démarche, tu vois. Vraiment, je comprends ta démarche sur ta réflexion, tu vois, bah, comment j'en suis arrivé là, ma carrière, si je veux qu'elle évolue, il faut que je la prenne en main.
Ouais.
Mais quelque part, tu dis, j'invite les boxeurs à le faire, mais quelque part, moi, ce que je trouve, c'est que c'est un métier quand même, être promoteur.
Ah, mais oui.
Et manager une carrière. Et je trouve que, en fait, c'est plus malheureusement une conséquence que ça ne va pas très bien comment on gère la carrière des boxeurs en France, tu vois, que tu sois obligé d'en arriver là. Tu vois, c'est, moi, je déplore un petit peu ça, que tu sois obligé de prendre ta carrière en main à ce niveau-là, alors que normalement, vu ce que tu as déjà prouvé, c'est-à-dire que, ben, comme on l'a très bien dit, tes deux premiers combats pro n'ont pas été simples, par la suite, tu enchaînes des victoires. Donc, et vu ce que tu avais fait avant, normalement, tu devrais avoir plein de propositions là pour être dans des galas en France.
Bonnes
propositions, tu vois ce que je veux dire, des trucs qui te font avancer.
Ouais,
tu vois,
et oui,
tu sois obligé justement de pousser pour aller voir les promoteurs canadiens, leur dire vas-y, moi je suis là, je veux boxer. Ouais. Tu vois.
C'est vrai qu'il faut pas. Je reviens sur ce que je m'ai dit, sur ce que je viens de dire, sur les boxeurs, allez-y, etc. Après, moi je sais que c'est. Des entraîneurs et une team qui est derrière moi et que je parle. Je suis pas toute seule à dire, je vais pas prendre la décision toute seule. Même si au final, la décision finale va être la mienne, j'ai envie d'y aller. Bah, si ils n'arrivent pas à me convaincre, bah vas-y, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise. Mais je me dis, tu vois, je regarde, je suis les filles, je suis, tu vois, sur les réseaux sociaux, certaines filles de ma catégorie, que ce soit en 57 ou 59, tu vois, étrangères, Australie, États-Unis, Canada, tu vois, Allemagne, tu vois. Et je me dis, putain, mais je peux y arriver, je peux le faire. Et pour qu'un manager, au final, vienne te chercher et te dire, bah écoute, si tu veux, je manage ta carrière, bah faut qu'il te voie. Mais là, à Marseille, il va pas me voir.
Bien sûr.
Donc en fait, il faut que j'aille au Canada. Et je pense que Canada, enfin, en tout cas, je mets beaucoup d'espoir là-dedans, ça peut être une marche, un tremplin. Même si je gagne pas, ou même si. En fait, c'est la prestation. Je vais faire une bête de prestation. Bien sûr que je vise la victoire. Il n'y a aucun doute de mon côté. Tu vois, il faut que je la remporte. Tu vois.
Oui. Mais tu veux dire que tu as cet esprit aussi de se dire vas te vendre, en fait.
Voilà.
Tu vas vendre une prestation et tu veux convaincre et tu veux espérer derrière avoir des opportunités. Parce que c'est ça, en fait, la vie d'un boxeur.
Exactement.
C'est tu boxes pour espérer après avoir de plus belles opportunités et avancer comme
ça.
Et encore une fois, je trouve que ton esprit d'entreprise, d'entreprendre comme ça ta carrière, je trouve exceptionnel. Mais c'est vrai que, tu sais, moi, j'essaie de parler d'un point de vue extérieur et de
bien
dire
sûr.
Il faut que les managers aussi et les promoteurs en France s'occupent de la carrière des boxeurs et qu'ils fassent bien leur travail, tu vois.
C'est pas un appel à l'émancipation, entre guillemets, des boxeurs, à gérer toute leur carrière. C'est plus un appel, les managers, on est là, on a besoin de vous et que vous nous aidiez, quoi, parce que
bien sûr,
c'est pas
bien
possible.
Sûr, bien sûr, bien sûr.
Ouais.
Non, c'est génial. Et je sais pas si tu as vu, mais ce week-end-là, il y a une carte 100% féminine à Londres.
Oui.
Avec deux championnats du monde unifiés. C'est quand même exceptionnel, deux championnats du monde unifiés.
C'est incroyable.
Donc tu vas regarder cette soirée, je suppose. Ouais.
En plus, j'ai même les filles qui passent avant. Il y a des filles que je suis sur les réseaux.
D'accord.
Et j'ai hâte de les voir.
Ok.
Et non, vraiment, cette carte, elle est folle.
T'aurais aimé hier?
Ouais.
T'as pas envoyé de mail?
Je t'ai déjà prise.
Non, merde, c'est vrai?
C'est incroyable. Ça, et puis ça fait plaisir au final. Ça fait plaisir d'avoir une carte 100% féminine c'est du très haut niveau. Enfin, c'est le meilleur niveau là.
Ouais, ouais.
Là, je me languis. Marshall contre Shield, mais je me languis aussi beaucoup plus meilleur contre
Bungem Maguer, je sais jamais son nom là, il est trop compliqué à dire son nom. C'est deux américaines. Ouais.
Je me languis vraiment ça parce que je les suis les deux, mais ça va être.
Ils ont sorti Top Rank, vidéo sur YouTube où elles se clashent un peu.
Oui,
tu l'as vu ou pas? Avec leur entraîneur, elles se parlent un peu de loin, c'était bien fait. C'était bien fait, moi ça vend bien le truc et j'ai bien aimé parce qu'il n'y a pas d'insultes et tout, tu vois, mais elles se provoquent quoi, toutes les deux.
Ouais.
Je l'ai regardé là tout à
l'heure. C'est sous tension quoi.
Non, ça va être une très très belle soirée. D'y aller, t'aurais pas eu envie d'y aller juste pour assister? T'aurais pas pu
J'aurais pu, mais je parle au 13 avec mon combat,
ça faisait un peu juste,
ça
te sortait un peu de ta prépa, tout ça. Ta concentration. T'es quelqu'un qui a besoin de beaucoup se concentrer comme ça dans un combat ou
Me concentrer, naturellement, mais j'ai pas envie de partir. J'aime rester ma routine jusqu'au au point échéant, quoi, jusqu'au jour J.
D'accord.
J'ai pas envie, parce que dans l'esprit, tu vois, voilà, j'ai ma diète que je dois manger, voilà, strict, j'ai mes entraînements, et tout ça, ça conditionne pour le combat. Si c'est les vacances, si je pars un week-end tranquille, ailleurs, tu vois, que par ici, que chez moi, bah, je vais me déconnecter un petit peu de l'objectif. Et en tout cas, pour ma part, je préfère, voilà, serrer les dents jusqu'au bout et après profiter, quoi.
Ouais. Je crois que c'était Rocky Marciano qui s'isolait complètement, ouais, pendant ses camps d'entraînement. Et il voulait même plus parler à personne, ouais, même pas un contact humain, pour vraiment, d'accord, se conditionner, ouais, dans son combat. Ouais. Bon, c'était un peu extrême.
Mais
mentalement, c'est dur quand tu fais la diète, tout ça. Est-ce que tu sens que tu es plus irritable, plus, tu vois, ouais, sujet
là,
à...
ça commence. Parce
ouais.
que...
Ah ben là, tu ne montres
là,
pas du tout.
Hein. Déjà fait. Non, parce que je bois un truc sucré, ça.
Mais... Tu vas le regretter.
Mais en fait, je suis une grande gourmande, j'aime beaucoup le sucre.
C'est les restrictions qui font
ça. C'est les restrictions, c'est dur. Ouais. Pourtant, je mange bien, tu vois, les quantités, tu vois, ça me convient, c'est hyper strict, mais j'ai pas trop de fruits, tu vois, même des bonbons. Moi, j'adore les bonbons. Désolée, je l'avoue là, mais je suis une fanade de bonbons. Éliminer les fruits, même si tu vois, un petit peu des petits plaisirs comme ça qui. Et puis la fatigue en plus, parce que quand tu manges, voilà, t'as pas beaucoup d'énergie, quand tu manges, les quantités sont restreintes un petit peu, même si elles sont là. Et fatigue, des grosses journées, et des fois, ouais, pas envie de parler. Et puis quand on te parle, voilà, bah, des fois t'en as marre. Mais bon, après, je pense que c'est tout le monde avec l'entraînement. Et puis ouais, t'as un petit peu le stress, normal, tu ouais. sais, et l'appréhension va vite, que ça arrive. Tu te poses des questions et tu as l'impression que personne ne te comprend. Mais c'est le jeu, en fait. Mmh. Il faut être dans cette bulle, je pense, pour réussir à être bien au combat. Ouais.
Emma, là, tu as eu une prépa comme tu l'espérais, je veux dire, parce que tu dis que du coup, ils t'ont contacté. Mais est-ce qu'ils t'ont contacté ? À combien de temps du combat ils t'ont contacté ?
Bah, le 27 juillet, ça fait un mois et. Enfin, à échéance, ça fera un mois et deux semaines.
Comment, du coup, toi, t'estimes que c'est une bonne...
Physiquement, je suis prête. Ouais. Il n'y a pas à chercher plus, je suis prête. Ce que j'aurais aimé, c'est que là, en cette période, pour les sparring, c'est un peu mort.
Ah ouais.
J'ai contacté des personnes, des boxeuses sur Nice, par là-bas, et elles ne pouvaient pas. Après, par ici, sur Marseille, ça ne pouvait pas non plus. Donc, j'ai mis les gants avec qui je pouvais, et ça sert toujours. Et voilà, après, bah, si j'ai pas trop de sparring ou pas des sparring aussi intensément que j'aurais pu en avoir, bah, c'est pas ça qui va. Enfin, faut pas que je me focalise là-dessus, parce que. Mais je suis prête, mais c'est vrai que la période de l'été, il y a beaucoup moins de monde. Donc pour mettre les gants, c'est un peu plus compliqué.
C'est un problème que tu as souvent rencontré dans ta carrière, le manque de sparring.
Les sparring, c'est vrai que c'est toujours compliqué, parce qu'il va y avoir une question de poids. Enfin, après, si je mets les gants avec les filles, bah, c'est une question de poids, soit trop légère, soit trop lourde. Et après aussi, peut-être de niveau, tu vois. Est-ce que ça va être le même niveau si. J'adapte ma manière de boxer, tu vois, mais par exemple, si c'est un niveau inférieur, qui est une personne qui est en amateur ou début pro, bah, on va travailler plus côté esquive, ou pas se faire toucher, ou défensif, ou quelque chose comme ça. Si c'est le même niveau, bah, là, c'est comme un combat. Si bah, je vais mettre les gants contre un mec, bah, je vais travailler différemment, lui aussi. Mais c'est pas un souci, mais c'est plus une organisation, comment gérer. Voilà.
Ok. Et du coup, tout à l'heure, on donnait un exemple d'une boxeuse qu'on connaît tous les deux, qui allait faire sa carrière à Londres. Est-ce que toi, c'est des choses que tu t'es déjà dit, pourquoi pas aller, parce que Londres, c'est pas très loin, enfin Londres, l'Angleterre, c'est pas très loin, tu vois. Est-ce que tu t'es déjà dit, pour ma carrière, parce que vu que tu es quelqu'un qui entreprend vachement, tu vois, t'hésites pas, enfin j'ai pas l'impression que t'hésites trop si quelque chose est bon pour toi, est-ce que tu t'es posé cette question ?
Bien sûr.
Et même, imagine Montréal, tu kiffes comme pas possible, de te dire, s'ils veulent me signer. Pourquoi pas ? Tu serais capable ?
Mais en fait, comme je t'ai dit, le combat au final au Palais des Sports, là, pour ma ceinture, ça a fait un peu un tilt.
Un déclic, ouais.
Ouais, un déclic. Mmh. Bon ou mauvais, je sais pas, mais en tout cas, il était là, ce déclic. Et je me suis dit, en fait, Alors je vais, parce que peut-être quand je vais dire ça, il y a des personnes qui vont le prendre pour eux, etc. Mais ici, je vois pas comment c'est possible d'évoluer un peu plus. Je pense que je vais tout en rester ici parce que c'est une terre quand même sportive, de boxe. Mon club est ici et j'ai pas envie de le quitter. Mais je vais moins m'empêcher de partir, ne serait-ce que pour une semaine, 10 jours. Vas-y, je prends l'avion, 30 € aller-retour pour aller à Londres. Et je reste une semaine et j'ai des contacts, j'ai cette fameuse personne où je pourrais voir avec elle. Ah bah, j'ai une autre fille aussi.
Tu peux la citer, si tu veux.
Je m'en rappelle plus.
Johanna.
Oui, mais c'était son nom de famille, je m'en rappelle plus. Je pourrais la contacter, j'ai une autre fille aussi que je connais en MMA, qui est en partenariat avec un club en boxe anglaise aussi. Donc voilà, je sais qu'en Angleterre, je pourrais partir. Et là, avant la fin
donc
de l'année, j'ai envie. Ouais.
C'était ça ma question.
J'ai réfléchi
et de plus en plus fermé à l'idée.
Okay, et okay. Tu vois, pour faire des stages en fait. Partir d'accord. avec des stages, par exemple, j'ai une date, une échéance dans 2 mois. Et ben, je sais que voilà, faut que je parte au moins une fois à l'étranger pour voir autre chose, pour mettre les gants avec d'autres filles qui vont m'apporter énormément et revenir pour avoir une base. Et voilà, être là où je, être, comment dire, m'entraîner les dernières semaines ou les derniers jours dans un environnement que je connais et qui m'est pas totalement inconnu. Après, par la suite, on sait jamais. Enfin, je veux dire, après, on sait jamais où ça peut m'emmener. Mais là, vraiment, peut-être qu'avant, j'étais un peu trop fermée. Je pense que c'est quand j'ai, jusqu'à que j'ai pas le titre national, je voulais pas partir. Je voulais être là, rester là. Il fallait que je l'aie. Après,
c'est une étape importante pour toi.
Ouais.
Aujourd'hui, tu es consacré à la boxe anglaise.
Dans ma vie.
À 100%.
Enfin, je veux dire,
tu fais plus de pieds-points, tout
ça. Oui. Oui, que boxe anglaise, ouais.
Oui, parce qu'il faut rappeler, bien sûr, que tu travailles à côté, comme tu l'as bien dit avec les coachings. Mais voilà, il faut bien gagner sa croûte et la boxe, ça ne paye pas si bien que ça. D'accord. Mais non, c'était ce que je voulais dire, c'était qu'en tant que sportive, tu es consacré à la boxe anglaise aujourd'hui. D'accord. Et quels seraient un peu tes objectifs dans la boxe anglaise? T'en as?
Bah oui, la question.
C'est des choses que tu es à l'aise de dire
En fait, mes objectifs...
Tu les gardes pour toi?
En fait, non, je ne les garde pas pour moi, mais en fait, je ne sais pas comment les dire. J'ai envie, d'un côté, je me dis, j'ai envie d'aller le plus haut possible.
D'accord.
Parce qu'en fait, le plus haut possible, c'est quoi? Ça peut être, j'ai envie de faire, je veux une ceinture européenne et je sais que je peux l'avoir.
Ouais.
Peut-être que je peux avoir un titre mondial aussi. Donc, championne du monde. Ouais, mais est-ce que c'est possible aussi en tant que boxeuse française, est-ce que c'est possible d'aller chercher les américaines? Est-ce que c'est possible, tu vois? Est-ce que c'est possible qu'eux, ils viennent te chercher? Tu vois, après, il y a des choses qui dépendent de la boxeuse, enfin de moi, et d'autres qui sont c'est indépendant de ma volonté, quoi.
Bien sûr,
Europe, ça reste autour de moi. Donc, j'aimerais, là, à court terme, j'aimerais une ceinture mondiale. Plus révélateur. Non, une ceinture européenne.
D'accord. Écoute, moi, je pense que ce qui serait intéressant, c'est de te revoir après ton combat à Montréal.
Oui.
Parce que, comme tu as dit quelque chose qui m'a donné envie de développer avec toi, mais je me suis dit, je pense qu'on le refera plus tard. Parce que tu as dit que tu as eu un déclic pendant cette soirée où tu étais en sous-carte des boxeurs influenceurs. Et moi, j'aurais bien aimé développer un peu ce sujet avec toi.
Ouais.
Il y a des cloches alors qu'on est dans un salon de thé, je comprends pas. C'est incroyable.
Non, mais...
Je comprends pas ce qui se passe.
Mais c'est à l'intérieur de.
Oui, c'est là, je pense.
Mais il est quelle heure? Qu'est-ce que c'est de
17h54. Je comprends pas. C'est incroyable. Mais bon, c'est pas grave, ça jamais
pas. Il y a une église à côté?
Je pense, j'espère.
Ma foi.
Et du coup, j'aimerais bien te développer avec toi sur ce sujet-là parce que moi, je suis très frustré de ce qui s'est passé là à Marseille.
Par rapport
au combat d'influenceurs,
tout ça,
je suis très frustré même de ce qui se passe dans la boxe avec ces influenceurs qui boxent. Donc, j'aurais aimé développer avec toi parce que tu as dit des choses hyper intéressantes sur ton ressenti en tant que boxeuse. Donc, j'aurais bien aimé en parler plus avec toi, mais peut-être dans un truc consacré à ça.
Ouais.
Et j'aimerais bien savoir, et ça, j'ai pas la réponse aujourd'hui, c'est est-ce que ta vision, elle va encore changer après ton combat outre-Atlantique?
Parce que tu vas vivre
quelque chose. Et j'aimerais bien, parce que ça va être intéressant de pouvoir te faire parler de ça.
Ouais.
Mais déjà,
non,
tu te concentres sur le combat, tu le gagnes. Et après, si t'es d'accord,
bien sûr,
on parle de ça, justement.
Mais je pense qu'elle peut que... évoluer, changer. Ah, parce que je vais aller dans un autre pays qui est, où la boxe est mise sur un haut niveau, presque pédestal. Et donc, je pense que ça peut être qu'intéressant et je pense que je vais en prendre plein les yeux. Au niveau de l'organisation, etc. Donc,
oh, mais la perception de la boxe, moi j'ai vu quand j'étais à New York, c'est complètement différent. C'est complètement différent. Mais justement, ça serait intéressant, si tu veux bien, qu'on développe
plaisir.
Là-dessus. Ouais. Moi, je pense que là, on a fait une bonne émission de presque une heure, donc c'est top. Ouais. C'est vraiment top. En tout cas, bonne chance pour la fin de la préparation.
Merci beaucoup.
Voilà, fais de ton mieux et puis on pourra te voir du coup. On va essayer en France de se débrouiller pour voir cette soirée. Bon, il y a toujours des moyens de se débrouiller. Moi, j'ai des petites astuces. Voilà, on peut toujours
partage
se débrouiller.
Les conseils.
Je peux pas le dire publiquement, mais je le dis en privé. Donc voilà, on peut te suivre sur Instagram.
Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres réseaux où on peut te suivre?
Instagram, j'ai TikTok.
D'accord.
Incroyable.
Ok, ok.
J'ai Twitter.
Ok.
Et LinkedIn.
Ok, ok. Et si les gens veulent te contacter pour faire des coachings, ils peuvent passer par tout ça.
Bien sûr.
D'accord.
Avec grand plaisir.
Bien. Sur Marseille, bien sûr.
Oui.
Ok. Ouais. Eh bien, écoute, merci à toi d'avoir répondu aux questions.
Top.
Je vous dis à tous à la prochaine. Fighting!